Chapitre 26, la cassette. Michel eut son rire d'enfant joyeux. De sorte que, reprit-il, si vous ne me connaissiez pas, mademoiselle ma femme, vous pourriez penser qu'après avoir couru un peu le monde, je vous reviens alléché par l'odeur de votre mystérieuse fortune. « Expliquez-vous, je vous en prie, dit la jeune fille, j'ai hâte de savoir. Je ne fais que cela, mon ange, et voyez un peu comme la conduite de monsieur Lecoq est logique, au fond. Ne trouvez-vous pas que Blanche est trop jeune pour lui ?»« Si fait, certes, repartit Edmé, qui eut presque un sourire, mais il ne s'agit pas de Blanche. » Il s'agit de vous. Monsieur Lecoq, sachant qu'il y a, de par le monde, une fortune qui vous appartient et voulant peut-être se donner le droit d'entrer en campagne contre les détenteurs de cette fortune, ah, vous ne le connaissez pas. Mais où est-elle cette fortune? S'écria Edmé. Et qui sont ces détenteurs? Michel devint rêveur. De l'autre côté de la cour, dit-il, en montrant du doigt la fenêtre de Maurice et d'Étienne, j'ai deux amis qui sont un peu fous, mais pas beaucoup plus fous que le restant de Paris. Leur folie est de tourner tout en drame et de considérer la vie réelle comme un immense répertoire de pièces propres à être représentées sur la scène de l'ambigu. Il y a du vrai là-dedans, je ne dis pas non. Donc, ces deux bons garçons, que vous connaissez aussi bien que moi, ont remué des montagnes autour de nous deux. Edmé, autour de la maison Schwartz, autour de ce que vous savez comme moi, autour de ce que nous ignorons l'un et l'autre. J'ai travaillé avec eux, et parmi le monceau d'hypothèses qu'ils retournaient pour y chercher leur pâture, toujours cet antagonisme se retrouvait entre Olympe Verdier et Sophie. Sophie, c'est vous, Olympe Verdier, c'est ma mère. Ils ne savent rien de ce dernier secret, ils ne connaissent pas ma mère, qui ne dit son cœur qu'à Dieu, mais leur supposition, rapprochée de certaines paroles de monsieur Lecoq ayant trait à la fortune des Schwartz et à sa source, conduirait à penser « Le baron Schwartz est un homme habile, et je ne réponds que de ma mère. Or, quand ma mère a épousé le baron Schwartz, il avait déjà 400 000 francs. » 400 000 francs, répéta Edmé, il avait 400 000 francs. Puis elle continua comme si ce chiffre même eût augmenté son trouble. Je vous en prie, Michel, ne me cachez rien. Monsieur Lecoq, poursuivit notre héros en homme qui vide son sac, affirme que très peu de temps avant le mariage, monsieur Schwartz accepta de lui à dîner dans une auberge de Caen. De Caen, fit Edmé, dont la voix s'altéra. Ce jour-là, monsieur Schwartz avait faim, acheva Michel. Je dis faim. Il eut un silence, après quoi Michel reprit. J'ai rêvé une famille composée de nos deux mères et de toi. Que nous faut-il de plus? Puis, avec brusquerie. Ah, c'est fou, comme tout le reste. Ma mère n'est pas malheureuse et monsieur Schwartz a une réputation d'honnête homme. Quoi qu'il en soit, ne me demande pas une syllabe de plus. J'ai tout dit sur ta fortune et je reviens à la mienne, qui était à faire. Écoutes-tu, tu n'en as pas l'air. Edmé restait pensive. J'écoute, dit-elle pourtant. Il y a des moments, pensa tout haut Michel, où nous sommes froids comme de vieux époux. Edmé reposa ses beaux yeux sur les siens et dit avec une passion profonde « Je t'aime chaque jour un peu davantage. »« Chérie, murmura-t-il en dévorant ses mains de baisers, je ne te vaux pas, c'est vrai, mais c'est pour toi seul, que j'ai bien ou mal travaillé. Quoi qu'il arrive, ne prends plus jamais d'inquiétude. Je suis à toi, encore plus pour moi que pour toi. Si j'ai pu vivre loin de toi, c'est que je te savais à moi. » Tout me semble possible ici-bas, sauf notre séparation. Nous sommes mariés, je te le répète, c'est ma joie et c'est ma confiance. Je réclamerai mon dû près de toi, quand même un beau matin tu t'éveillerais princesse. Et si j'étais roi, bon, s'interrompit-il, pendant qu'elle tendait son beau front à ses lèvres, voilà la romance qui vient. À nos affaires. Quand je quittais la maison Schwartz, j'avais des préjugés contre monsieur Lecoq. Je croyais même avoir surpris à son endroit quelques dangereux secrets, car un mot de passe qui ne m'était pas destiné tomba une fois dans mon oreille. Certains gens dans Paris se reconnaissent entre eux au moyen de ces paroles, en apparence insignifiantes, fera-t-il jour demain? Mais tous les mystères de ce genre ne sont pas criminels. La preuve, c'est que, depuis du temps déjà, ce mot de passe sert à faciliter les sincères relations que j'ai avec ma mère. Dans le métier que fait Monsieur Lecoq, on a besoin d'étranges précautions, et on est forcé aussi de fréquenter, de soutenir, de payer, tranchons le mot, une clientèle interlope, pour ne rien dire de plus. Laisse-moi te demander, prononça Edmé tout bas, si tu as répété ce mot de passe à Monsieur Bruno à l'époque où tu croyais en lui. Peut-être, répondit Michel, mais je suis bon pour régler le compte que nous avons ensemble, Monsieur Bruno et moi. La vérité, c'est que le métier de Monsieur Lecoq me répugnait autant qu'il peut te déplaire à toi-même. Tu ne vas pas souvent au théâtre, ma belle petite Edmé, et tu lis peu de romans. Mais tu n'es pas sans avoir entendu parler de gens qui poussent le dévouement ou la passion jusqu'à accepter des rôles haïssables. Le but est quelquefois noble, quelquefois même héroïque, qui veut la fin veut les moyens. Monsieur Lecoq avait une piste à découvrir, une piste très adroitement dissimulée. Monsieur Lecoq s'est fait chien de chasse, moi je trouve cela net, intelligent et brave, et toi ? Il s'arrêta comme pour attendre une approbation ou une discussion. Edmé resta muette. Il reprit. Dès le début, Monsieur Lecoq me laissa voir qu'il s'intéressait à moi. Si j'avais répondu à ses premières avances, nous serions heureux déjà, mais cédant à mes antipathies, renforcées encore par les demi-mots de la comtesse Corona et les calomnies de ce précieux Monsieur Bruno, je m'éloignais de lui complètement. Je cherchais un emploi. Ma retraite de la maison Schwartz me fermait toutes les portes dans la banque et l'industrie. Il courait sur moi des bruits qui semblaient sortir de terre. J'avais payé l'affection un peu bien romanesque de mon ancien patron par la plus noire ingratitude. Bref, pas d'emploi pour moi dans tout Paris. Vous fûtes mon refuge alors, Edmé, vous et votre excellente mère. Je travaillais à ceci, à cela, et puis encore à autre chose, des extravagances qui peuvent sembler raisonnables à première vue. Je crois que je voulus être auteur, puis inventeur, un tas de sottises. Je dois noter que je n'étais pas absolument sans ressources. Une main mystérieuse, et vous avez deviné la baronne Schwartz, n'a jamais cessé d'être sur moi. À bout de folie, ma foi, je tentais le jeu. La plus dangereuse de toutes les folies, dit Edmé. Savoir, pour les sages et les heureux, je ne dis pas, mais pour ceux qui sont obligés de tenter Dieu, selon l'énergique expression des casuistes, c'est différent. On aime ou on n'aime pas. Je perdis et je signai des lettres de change. Non pas une, comme mes pauvres diables de camarades, les dramaturges en graines, mais plusieurs, mais beaucoup. Et sur ma parole, mon ennemi chéri, ce fut toujours pour toi. Tu ne me crois pas? Eh bien vrai, tu as tort. Sans toi, je serais commis à 1800 francs dans quelques bureaux moisis. Tu vois que tu es mon bon ange. Edmé ne s'attendait pas à cette chute. Elle sourit et dit « Tu auras la paix, Michel, et l'espoir d'avancer. Ne blasphème pas. J'ai vécu de luxe et d'orgueil dans cette maison Schwartz, à l'âge où le caractère suit le modèle. Je suis resté bon, puisque je t'aime, mais écoute ceci, Edmé. Une fois ma mère m'a dit, avec des larmes dans les yeux, « Ma jeunesse fut orgueilleuse. Eh bien, je suis le fils de ma mère. » Edmé baissa la tête. « J'avais des amis, reprit Michel, outre Étienne Roland et Maurice Schwartz, qui m'ont témoigné un dévouement fraternel, j'aimais ce brave Domergue, qui entretenait ma vanité en me disant, à l'aide de charades, que j'étais le fils de monsieur le baron Schwartz. Il le savait de science certaine, et il le croit encore dur comme fer. J'avais la comtesse Corona, qui me parlait en énigme, moins naïve, et me montrait la porte ouverte du jardin d'Armide. C'était trois pattes, l'estropié du plat d'étain, qui m'apportait les messages de cette charmante femme. Voilà un rébus, ce couple fantastique. La comtesse et trois pattes. Elle vient le voir, tu le sais comme moi. Mais Monsieur Lecoq, seul au monde, pourrait dire le mot de ce romanesque mystère. Enfin, j'avais mon escompteur normand, Monsieur Bruno, qui m'achetait ma garde-robe pièce à pièce et m'avançait de l'argent. Ma mère ne savait rien de tout cela, au moins. et il y a bien peu de jours que je l'appelle ma mère. Ne ferme pas les yeux, ennemi, nous voici au dénouement. Je fermais les yeux, dit-elle avec son sourire, pour évoquer cette suprême beauté qui m'a fait verser tant de larmes. Je suis si heureuse, Michel, chaque fois que tu prononces le nom de ma mère. Elle t'aimera, je t'en réponds, si tu savais comme elle m'aime. Dis donc, il y a un petit secret que je voudrais bien connaître. Par quelle porte ce digne monsieur Bruno s'est-il introduit dans votre maison ?
Il y a 3 mois, répondit Edmé, quand je tombais malade, après avoir rencontré madame la baronne Schwartz sur le seuil de ta porte, maman venait d'envoyer de l'argent à nos créanciers. Nous n'avions rien devant nous. Un matin qu'on avait ouvert pour donner de l'air à ma chambre, je vis à l'une des croisées qui font face l'étrange figure de 3 pattes, à demi cachée derrière les rideaux de son petit réduit. Il ne m'apercevait point et ne se croyait pas être observé. Il regardait chez nous avec une attention particulière. Au bout de quelques instants, ne s'en reposant plus sur ses yeux, il mit au point une énorme lorgnette jumelle et le braqua sur la chambre de maman.
Que regardait-il ?
Je ne savais. Il disparut, et un peu de temps après, quand maman sortit pour ses courses, monsieur Bruno vint frapper à notre porte, demandant si nous n'avions rien à vendre. Je l'accueillis, car il a dans le quartier la réputation d'un homme juste, et en effet, il donna un bon prix des menus objets dont nous voulions nous défaire, mais ce n'était pas ces objets-là qu'il voulait acheter.
Que voulait-il acheter ?
Le brassard ciselé, et j'ai pensé plus d'une fois que 3 pattes avait braqué sa grande jumelle pour mieux lorgner le brassard.
Preuve qu'ils s'entendent comme larrons en foire, dit Michel.
Jamais je ne les ai vus ensemble, répliqua Edmé. Monsieur Bruno est revenu bien des fois, toujours en l'absence de ma mère, et je serais ingrate si je n'avouais qu'il nous a rendu des services.
« Toujours en l'absence de ta mère, » répéta Michel, qui réfléchissait.
Oh, « C'est peut-être le hasard. À diverses reprises, il a offert du brassard une somme considérable. »«
Cela vaut donc bien de l'argent ?»«
Oh, je le crois, car monsieur Bruno n'est pas le seul qui désire l'acheter. »«
3 pattes, » interrogea Michel.
« Non, monsieur Lecoq. »
C'est le brassard qui lui a servi de premier prétexte pour passer le seuil de notre porte. Il connaît un amateur qui en donnerait 10 000 francs.
10 000 francs, répéta Michel étonné, ce brassard-là.
Puis il ajouta, mais on cherche parfois des moyens détournés de faire du bien.
Edmé garda le silence, mais ses beaux sourcils se froncèrent. Elle restait décidément incrédule à l'endroit des vertus de monsieur Lecoq.
« Nous serions loin de ma prison, » reprit Michel après une pause, « si monsieur Lecoq ne nous y ramenait. Voici 3 jours entiers que je joue à cache-cache avec ce bon monsieur Bruno qui a prise de corps contre moi. La partie a été rude, car j'étais seul contre 3, le Normand, 3 pattes et la comtesse. Que fait celle-là dans cette intrigue avec de pareils associés ? Voilà où je jette ma langue au chien. » Mais elle est leur complice, je l'affirme, et c'est elle-même qui a failli me faire tomber dans le piège.
Pourquoi ? Je plaide une cause, et il faut tout dire. Dans cette charmante femme-là, il y a un peu de madame Putiphar. Elle sait que je t'aime, veut-elle se venger ? Hier, je lui avais révélé l'asile où je reste confiné depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. La nuit dernière, j'ai reçu un message de monsieur Lecoq qui me disait « Vous serez arrêté à la première heure. » Et en effet, à la première heure, à peine avais-je pris ma volée que le logis était cerné par les recors, et ce gnome de 3 pattes, passant là justement dans son fantastique équipage, a parlé aux alguazils. Je l'ai vu. Le message de monsieur Lecoq me donnait un rendez-vous. J'y ai couru. Ah, quel malheur que ma mère ait des préventions contre lui.
« Ah, fit Edmé, les 2 seuls cœurs qui vous aiment sont bien du même avis, elle et moi. »
Michel haussa les épaules.
« Les faits parlent, dit-il. Moi, j'avoue que je crois aux faits. Monsieur Lecoq m'a compté l'argent de ma lettre de change, principal, intérêt et frais. »«
En échange de quoi ?» demanda la jeune fille avec méfiance. en échange d'un grand merci, parbleu. Cet homme-là compte sur moi, il m'a deviné, il a confiance en mon avenir. La preuve, c'est que j'ai commencé par faire une sottise et qu'elle m'a réussi. J'ai du bonheur. Aussitôt que j'ai eu de l'argent, une inspiration m'a poussé vers le jeu. J'ai gagné 300 louis. Veux-tu des acomptes ? En prononçant ces derniers mots, Michel avait plongé ses deux mains dans ses goussets, qui sonnaient l'or. Il s'interrompit et changea de visage en voyant l'étrange expression qui se peignit sur les traits d'Edmé. La jeune fille avait d'abord écouté avec tristesse cette folle péroraison, mais tout à coup son regard s'était animé, et ce n'était point les paroles de Michel qui avaient produit ce résultat. Edmé fixait ses yeux agrandis sur la fenêtre. Michel se retourna vivement pour voir ce qui attirait ainsi son attention. Ils se levèrent tous les deux en même temps. De l'autre côté de la cour, la chambre de Michel, qui était restée noire si longtemps, venait de s'éclairer. L'absence de rideau en montrait exactement le contenu. Étienne et Maurice étaient là, debout, dans le négligé, plus qu'original, de leur toilette intérieure. Maurice tenait la lampe à la main, Étienne, courbé en deux, exécutait un profond salut devant une dame vêtue de noir, et dont le visage disparaissait sous un voile de dentelle posé en double. « Ma mère, » murmura Michel, « c'est ma mère. »« Je croyais la reconnaître, » dit Edmé, dont le cœur eut un élancement au souvenir de sa torture passée. Michel n'avait fait qu'un bond jusqu'à la porte. Edmé, curieuse, éteignit sa lampe et ouvrit sa fenêtre. Madame la baronne Schwartz, car c'était bien elle, avait déjà disparu. Et nos deux collaborateurs rentraient dans leur dramatique logis, cherchant sans doute le moyen de caser utilement cette surprenante visite à quelque bon endroit du drame. Edmé se pencha sur son balcon. Derrière elle, aucune lueur ne trahissait plus sa présence. Voici ce qu'elle vit. La cour avait 3 portes pour 3 escaliers, dont un de service. Elle était éclairée par une lanterne suspendue à la porte de l'escalier de service. Michel, qui avait descendu les étages 4 à 4, se montra le premier. Presque au même instant, la femme voilée déboucha, sortant de la voûte et courant comme une personne poursuivie. Elle portait un objet sous son châle. Michel la rencontra au tournant de la voûte. Elle recula un peu, puis elle mit un doigt sur sa bouche. Elle ouvrit son châle d'un geste fiévreux. L'objet qu'elle portait était une cassette d'un précieux travail. Sans parler, sans hésiter davantage, elle jeta la cassette entre les mains de Michel et s'enfuit par l'escalier de service. Comme Michel restait abasourdi, un homme, sortant aussi de la voûte, se précipita vers lui et, sans mot dire également, voulut lui arracher la cassette. D'instinct, Michel résista. Dans la lutte, le chapeau de l'inconnu tomba et découvrit le front demi-chauve du baron Schwartz. « C'est à moi, » dit-il, alors d'une voix haletante, « cette femme m'a volé !» Puis, reconnaissant Michel tout à coup et le prenant à la gorge des deux mains, il ajouta, râlant de colère, « J'en étais sûr, tu es un misérable et je vais te tuer !»« Cet homme est fou !» dit une voix douce et calme derrière le groupe qu'il formait. « Ne lâchez pas le dépôt que je vous ai confié, monsieur Michel. » Ils tressaillirent et se retournèrent d'un commun mouvement. Une femme, vêtue de noir et voilée, comme la baronne Schwartz, était debout derrière eux. Michel eut peur, et sa main se tendit pour barrer le passage au banquier. « Prenez garde, murmura-t-il, c'est moi qui vous tuerai. » La femme en noir souleva son voile, montrant la belle pâleur de son visage. « La comtesse Corona !» balbutia M. Schwartz, stupéfait. « J'avais cru !» Il n'acheva pas et passa la main sur son front. Aucune parole ne vint aux lèvres béantes de Michel. Il pensait seulement « Celle-là est sortie de terre !» M. Schwartz ramassa son chapeau et s'inclina profondément en balbutiant une excuse. Puis il s'éloigna, prenant lui aussi l'escalier de service qui menait chez M. Lecoq. La comtesse le regarda s'éloigner et pensa tout haut, « Il parlera, mais une calomnie de plus ou de moins, qu'importe. »« Madame, dit Michel, je ne m'attendais pas à vous rendre grâce. » Il fit un pas vers l'escalier de service. La comtesse l'arrêta. Soyez tranquille, prononça-t-il avec une froide amertume, à l'endroit où ils vont tous deux, ils ne se rencontreront pas. Elle rabattit son voile et ajouta tout bas, « Monsieur Michel, vous aimez vos ennemis et vous détestez vos amis. » Elle partit sur ces mots, demandant le cordon à voix haute et impérieuse. Michel resta seul au milieu de la cour. Le bruit que fit la fenêtre d'Edmé en se refermant lui donna un sursaut. Son regard se porta vers l'escalier de service comme si la pensée de s'y engager à son tour eût persisté en lui. Au premier instant, il avait été presque dupe de la diversion opérée par la comtesse Corona, mais les dernières paroles prononcées établissaient clairement le rôle de la comtesse qui se posait en bienfaitrice vis-à-vis de sa mère. La cassette venait bien de sa mère qui, tout à l'heure, avait voulu la déposer chez lui. Michel connaissait, on ne peut mieux, l'intérieur de la maison Schwartz. Il savait que le baron épiait sa femme passionnément et bourgeoisement. Il devinait, ou à peu près, la muette partie qui venait de se jouer entre les deux époux. Le secret menacé, la fuite de Giovanna emportant ce secret, le mari tombant sur sa piste par hasard ou autrement, la poursuite nocturne dans les rues de Paris et la rencontre, occasionnée par le fait même de son absence à lui, Michel. Il comprenait bien aussi pourquoi on l'avait choisi pour dépositaire, puisque la cassette, en définitive, devait renfermer sa propre existence. Mais que de choses lui échappaient. L'intervention inopinée de la comtesse Corona, d'abord, et le service rendu par cette femme qui était un adversaire. Ensuite, le dénouement de l'aventure. La baronne s'était engagée dans l'escalier de service, comme on prend un chemin connu. Le baron avait fait de même, et Michel avait encore dans l'oreille l'accent railleur que la comtesse avait appliqué à ses paroles. À l'endroit où ils vont tous deux, ils ne se rencontreront pas. Quel endroit? La maison Lecoq? Michel eut pour la première fois de sa vie la prudence virile. Mettons d'abord le dépôt en sûreté, pensa-t-il. Après, je verrai. Michel monta lentement l'escalier de sa demeure et vint s'asseoir pensif entre ses deux amis, Étienne et Maurice, qui, tout émus encore, entamèrent aussitôt le récit de la mystérieuse visite. Il leur imposa le silence d'un geste et fit signe à Maurice de s'approcher. Quelqu'un a fait ta paix avec le baron Schwartz, lui dit-il. Blanche sera ta femme, si tu veux. Si je veux, se récria Maurice, éperdu de joie, car il savait bien que sur un pareil sujet, Michel ne pouvait ni railler ni mentir. C'est une histoire, reprit Michel, un conte de fées plutôt. Il y a encore des bons génies. Il appuya sa tête entre ses deux mains, et certes, sa préoccupation triste démentait énergiquement la gaieté de ses paroles. « Tu es pâle, » dirent en même temps les deux amis. « Ce n'est rien, » répliqua-t-il. Et puis il ajouta, en plaçant la cassette sur la table devant Étienne, « Je crois que ton drame est là-dedans, un fier drame. » Étienne avança la main d'un mouvement fiévreux. Il eut pris son drame dans le feu comme un raton fait pour les marrons. Michel l'arrêta. « C'est une chose singulière, » prononça-t-il d'une voix changée, « comme je suis triste malgré mes bonnes nouvelles, car j'ai de bonnes nouvelles. Nous sommes riches, nous allons être heureux, et pourtant j'ai un poids sur le cœur. » Maurice, s'interrompit-il en posant sa main étendue sur la cassette, « j'ai confiance en toi comme si tu étais mon frère. Au cas où il m'arriverait malheur, je te laisse ce dépôt qui est sacré. C'est la vie et l'honneur d'une femme. »